Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Nos invités sont Bertrand Badi et Dominique Vidal qui co-dirigent L'État du Monde dont la dernière édition vient de paraître sous le titre La France, une puissance contrariée aux éditions La Découverte. Bertrand Badi, professeur à Sciences Po, bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, journaliste et historien, bonjour.
Bonjour.
L'État du Monde est un rendez-vous annuel incontournable qui permet de faire le point sur une question internationale majeure. C'est la dernière édition, on va en parler. Et pour cette dernière édition, vous avez fait le choix de la France, dont la politique étrangère est depuis longtemps sous le feu des projecteurs, tour à tour présentée comme le vestige d'une gloire passée, la marque d'une présence maintenue dans un monde qui n'a plus de limites, ou le signe d'une arrogance blessée par une succession d'échecs. Votre titre, La France, une puissance contrariée, Dominique Vidal.
Je voudrais vous dire que c'est le 40e État du Monde. Et cette aventure que les éditeurs, La Découverte, ont promue, inventée, développée, ils ont décidé de l'arrêter. Et nous pensons que dans un monde aussi complexe, où beaucoup de gens se perdent, il est important de garder ce cap, c'est-à-dire de fournir à un public très assoiffé de compréhension du monde, quelque chose qui va au-delà de la superficie, qui permet de trouver des grilles de lecture, de les discuter, de les adapter. Et c'est pourquoi nous avons décidé de chercher un nouvel éditeur pour que l'État du monde continue.
Donc c'est presque un appel que vous lancez là.
C'est quasiment un appel, on peut le dire, parce que, si vous voulez, c'est vrai que l'État du monde a dû changer de formule en 40 ans. Nous n'en sommes pas les pères, d'ailleurs, nous n'en sommes que les continuateurs. Mais le fait qu'il y ait aujourd'hui des sources aussi riches que celles qu'on peut trouver sur Internet n'empêche pas qu'on doive évidemment choisir, ordonner, investiguer, mettre de l'ordre dans quelque chose qui est un chaos très riche, mais un chaos quand même. Et c'est ça, au fond, le rôle de l'État du monde, et des générations d'étudiants ont passé leurs études et leurs examens, en particulier avec l'État du monde.
Surtout que c'est la parution à la rentrée, après les vacances, ça donne vraiment le dernier trimestre de l'année. Donc, 40e édition, cette dernière édition consacrée à la France, à la politique étrangère française, Bertrand Badi. Vous parlez d'une politique étrangère décalée, d'une éclipse de la puissance.
Oui, en fait, elle est très énigmatique, cette politique étrangère de la France. Elle nous paraît familière parce qu'on entend rituellement parler de grandeur, de rang, de responsabilité particulière, d'honneur de la France écoutée, de la France respectée, de la France redoutée, parce que notre mémoire nationale est une mémoire dans le monde, c'est-à-dire ce qui reste de la mémoire nationale, ce sont ces grands mythes, Louis XIV, Napoléon, la Troisième République construisant son empire colonial, le général de Gaulle, dont la figure a été internationale du début jusqu'à la fin. Mais en réalité, on a du mal à la saisir et on a un sentiment, c'est ce qui a marqué le point de départ de notre réflexion, de décalage et de contrariété. De décalage parce que, de quel poids la France pèse réellement aujourd'hui? On en a eu encore une toute petite illustration avec l'affaire des sous-marins australiens. Mais on en a quotidiennement l'écho. Et pourtant, il y a un attachement viscéral à ce mot emblématique de rang. Si vous écoutez ce qui se dit en Allemagne, en Espagne, je ne parle pas du Lesotho du Guatemala, en Allemagne, en Espagne, au Japon, vous ne trouvez pas cette obsession du rang, cette idée que tout se joue dans la conservation de ce siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Le défilé du 14 juillet, démonstration de puissance s'il en est, n'a son équivalent pratiquement dans aucun pays sauf la Corée du Nord et la Chine. Donc il y a là quelque chose de frappant et de décalé parce que les problèmes du monde aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le problème du monde, c'est le Covid, c'est le réchauffement climatique. Et donc, si il y a décalage, il y a contrariété, parce que cette affirmation quasi consensuelle dans la classe politique, c'est-à-dire il n'y a pas un parti qui milite pour une autre politique étrangère, hein. Ça n'a pratiquement jamais existé, en tout cas depuis le début de la Ve République. Donc, cette option quasi consensuelle n'est jamais débattue. Je n'ai jamais entendu parler d'un débat, ni au Parlement, d'un vrai débat, j'entends, ni au Parlement, ni dans les médias sur cette politique étrangère. Et finalement, par rapport à la hauteur des espoirs, bah, les résultats, bon, certes, on a neutralisé un djihadiste dans le Sahel le mois dernier.
L'annonce en a été faite cette semaine. Dominique Vidal, la France, une puissance décalée, une puissance contrariée. Alors Pierre Grosser le dit, hein, dans un chapitre de cet État du monde 2022, il parle de cette obsession depuis 1945 pour la France d'être traitée en grande puissance. Il revient sur Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, qui suppliait Américains et Britanniques de reconnaître que la France était une grande puissance mondiale à égalité avec l'Angleterre et devant l'Allemagne.
Ben, je crois que quand on parle de De Gaulle, on parle d'un rêve de grandeur qui, pour une part, a pris corps avec lui, grâce à une politique plus indépendante, même si elle n'était pas politique de rupture avec les États-Unis, mais c'était une politique plus indépendante. Aujourd'hui, je parlerais plutôt de fantasme. Bertrand vient de citer les sous-marins australiens, mais on pourrait parler du Liban. Que reste-t-il de la tentative de médiation, entre guillemets, du président Macron? On pourrait parler du Mali, une opération qui fait faillite. Donc tout cela, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé, avec trois grandes parties. Une partie sur l'histoire de la puissance et de la notion de puissance en France, une deuxième partie sur les instruments de la puissance, et une troisième partie avec des cas. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que pour s'y retrouver, il faut faire la différence entre les facteurs objectifs et les facteurs subjectifs. Qu'est-ce que j'appelle objectif ? La défaite de 1940, qui ravale la France, bon, ce qu'elle a été pendant quelques années. Heureusement, De Gaulle et la résistance ont un peu relevé la tête. Mais on était mal tombés quand même. Et puis, il y a la décolonisation ratée, qui nous fait perdre un atout considérable. Et puis, il y a la bipolarité imposée par la guerre froide, qui ne laisse pas de marge de manœuvre pour une politique indépendante. Et puis, il y a la mondialisation néolibérale qui ébranle en profondeur notre économie. On le paye aujourd'hui fortement. Et enfin, il y a cet élargissement de l'Union européenne qui a dissous ce qui était le projet de De Gaulle et d'Adenauer, d'ailleurs, ensemble.
Qui a fait perdre à la France son hégémonie.
Voilà,
en Europe.
On n'a plus de leadership. Et puis, il y a ce que j'appelle subjectif, c'est-à-dire ce qui est conséquence de choix. Et on ne peut pas, là, simplement parler de fatalité. D'abord, la loi du profit maximum, qui est à la source même de l'effondrement de notre économie, et notamment de notre industrie. Ensuite, le néocolonialisme, imposé à nos partenaires, qui a évidemment affaibli notre écho dans le Sud. Et quand je dis affaibli, c'est peu de le dire. Il y a l'atlantisme. Cet alignement aujourd'hui sur la solidarité occidentale dont on voit quel prix il peut avoir. Mais comment parler d'indépendance quand on est là-dedans? Il y a aussi, moi j'y tiens, ce soutien obstiné aux pires dictatures, ces interventions militaires à courte vue qui nous enlèvent le rôle, l'écho, l'influence qu'on pouvait avoir dans le monde. Et enfin, c'est peu de le dire, c'est d'abord, il faudrait dire, cette présidentialisation qui isole un homme qui a tous les pouvoirs en matière de politique extérieure de toute réflexion collective et démocratique. À quoi sert l'Assemblée nationale? À quoi sert le Sénat? À quoi sert le Quai d'Orsay? À quoi servent nos ambassadeurs? À quoi servent les experts quand un homme, qu'on appelle, paraît-il, Jupiter, décide tout seul? Quand Bertrand dit il n'y a pas de débat, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de débat, puisqu'aucun des lieux de débat n'est appelé à penser notre politique extérieure. Et je voudrais dire une dernière chose, et je m'arrêterai là, c'est le Covid, qui a été quand même terriblement coûteux humainement, mais aussi du point de vue économique. Et là, on parle de fatalité. Mais comment la fatalité? J'ai regardé les chiffres hier soir. La Corée du Sud a 40 fois moins de morts par million d'habitants que la France. Pourquoi ? Ben parce qu'on a fait le contraire de ce qui a été fait en France. On a testé toute la population, on a confiné les malades et les malades seulement, donc l'économie a continué à tourner, et on a protégé, masqué de manière tout à fait naturelle, les personnes qui étaient saines. Et il n'y a pas de défilé de personnes pour qui la liberté, c'est de pouvoir aller boire un Ricard sans montrer un pass sanitaire.
Vous écoutez Géopolitique.
Réaction Bertrand Badi, est-ce que, et pour aller plus loin par rapport à ce que vient d'exposer Dominique Vidal, est-ce que finalement on pourrait dire aujourd'hui que la volonté de puissance, la volonté de maintien d'un rang rend la France aveugle?
Oui, je crois que le terme peut être employé aveugle face à un élément très important que vient de citer Dominique, face à la mondialisation. Vous savez, la France, tout à l'heure on s'interrogeait sur cette exceptionnalité de la politique étrangère française. Cette exceptionnalité, elle est liée au fait que la France est un des très rares inventeurs du système international. C'est-à-dire ce système international qui a régi le monde pendant 5 siècles, il a été inventé par un tout petit nombre d'États européens, dont la France. La France qui était maîtresse de cette diplomatie naissante au moment de Westphalie et de tous les grands traités de paix. Et donc il y a cette nostalgie d'un passé qui mettait la France au centre du monde. La France s'est toujours pensée par rapport au monde comme étant en son centre, comme étant dotée d'une responsabilité à l'égard de tous. Qu'il s'agisse d'éduquer les races inférieures, comme disait Monsieur Jules Ferry, ou qu'il s'agisse d'être le pompier dans n'importe quelle partie du monde dès qu'un conflit venait à s'exprimer, la France a toujours considéré qu'elle était le nerf essentiel d'un système international. Or, la mondialisation a, depuis plusieurs décennies maintenant, démenti ce fait sur 2 points essentiels qui ne sont pas vus. Premier point, la mondialisation, Monsieur Lapalisse me l'a expliqué, c'est le monde entier. C'est-à-dire, ce sont les émergents. La France a toujours considéré les puissances émergentes comme des parvenus, hein, pour prendre un langage de vieil aristocrate désargenté. N'a jamais su établir des relations avec ces puissances qui sont devenues un élément essentiel de l'ordre mondial. Qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de l'Inde, qu'il s'agisse de l'Indonésie, qu'il s'agisse du Brésil, qu'il s'agisse de l'Afrique du Sud, etc. De même, a-t-elle ignoré superbement ces puissances régionales qui naissent dans ce qui était autrefois, on l'appelait ainsi de façon méprisante, la périphérie du monde. D'où cette difficulté de reconnaître à la Turquie, à l'Iran, au Pakistan, par exemple, un rôle régional régulateur dans le grand Moyen-Orient. Ça a été une première ignorance. Et la deuxième ignorance qui va avec, c'est qu'à partir du moment où on entre dans la mondialisation, on change de logiciel. On passe d'une conception interétatique des grands problèmes de sécurité à une conception globale. Et la France ne veut pas voir cela. La France continue à nationaliser les enjeux globaux. Et du coup, cette ignorance qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, n'a plus, elle ne s'en est pas défaite totalement, hein. Ça n'existe pas dans le monde actuel, tout est hybride. Mais l'Allemagne se pense davantage comme puissance mondialisée, c'est-à-dire comme puissance dans le monde, que la France qui se considère comme puissance face au monde ou dans le monde. C'est pas la même chose. Et donc, cette réécriture nécessaire de la politique étrangère n'est pas faite parce que, comme vous le dites très bien, on ne voit pas. On ne voit pas que le monde dans lequel nous agissons, évidemment ce n'est plus celui de Louis XIV, ce n'est plus celui de Napoléon, mais ce n'est même pas celui du général de Gaulle. Lequel général de Gaulle avait pourtant le mérite d'avoir compris, probablement avant bien d'autres, l'importance du Sud.
Justement Bertrand, c'était juste pour apporter un bémol à ce que tu as dit, que je partage pour l'analyse globale. Tu dis jamais, non, de Gaulle, comme tu viens de le dire en conclusion, lui, il allait à Moscou dès 1944, il reconnaissait la Chine populaire en 1965, il prenait position contre la guerre américaine au Vietnam avec le discours de Phnom Penh en 67. Bref,
il savait anticiper.
De Gaulle savait se situer.
Il a inventé la France-Afrique.
Bon,
oui, sur laquelle on reviendra.
Mais disons que il y avait chez De Gaulle une certaine vision, une certaine sensation de ce que le monde en évolution pouvait lui offrir à lui pour la France de marge de manœuvre.
Oui, d'où sa tournée en Amérique du Sud.
Voilà.
Aussi,
au Québec, le discours du Québec libre.
Oui, donc, enfin là, on restait dans l'hémisphère et puis une dans la rivalité franco-britannique.
Quand même, je voudrais y revenir tout à l'heure, peut-être, une politique arabe qui s'est complètement enlisée avec au moins Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Sur Chirac, il faudrait discuter parce qu'il y a deux Chirac en fait, il y a celui de
Chirac 2 et Chirac 2 est déjà voilà, que de Chirac 1. Voilà. Enfin,
donc moi ce qui me frappe, c'est j'ai le bonheur de travailler depuis 12 ans avec Bertrand et je veux dire ici combien je trouve les idées qu'il a apportées dans le débat public qui existe un peu sur les questions internationales tellement importantes, mais Emmanuel Macron, pour le citer, je m'excuse de le dire avec un peu de vivacité, ne comprend rien à ces idées nouvelles. Qu'est-ce que Bertrand nous dit? Et je crois que c'est important. La puissance n'est plus la puissance. Il faudrait s'en souvenir quand on fait des interventions comme celle du Mali. Bertrand nous dit, les sociétés reprennent la main. Ben, il faudrait quand même arrêter de soutenir toutes les dictatures possibles et imaginables en humiliant les sociétés que ces dictatures oppriment. Bertrand nous dit, il y a un alignement sur l'Occident, cette nouvelle formule de guerre froide, qui pourrait être demain une guerre froide contre la Chine, dans laquelle on voudrait nous embringuer, eh bien, elle se fait au détriment des intérêts de la France, et de la paix du monde, d'ailleurs. On nous dit, la diversité du monde, Bertrand y insiste beaucoup sur le Sud, mais quand même, Akram Belkaïd le dit avec beaucoup d'humour à la fin de notre état du monde, mais qu'est-ce que c'est que ce modèle de laïcité universelle qu'on prétend imposer partout? C'est pas un modèle, c'est un contre-modèle par rapport à la réalité du monde. Nous sommes le seul pays qui applique ce type de laïcité, surtout quand ça devient une religion de la laïcité, avec tous les aspects islamophobes que nous connaissons ces jours-ci. Donc on est dans une politique extérieure qui est à rebours des grandes leçons qu'on peut tirer, en tout cas que Bertrand tire, et je partage ses analyses, de la réalité du monde en évolution.
Alors, politique extérieure à rebours, il nous reste 2 minutes pour terminer cette première partie d'émission. Je vais lancer un débat et je sais qu'on poursuivra dans la deuxième partie. Je reprends l'article de Pierre Grosser qui dit que la crise de 2003, donc avec l'intervention américaine en Irak, a aussi été un traumatisme pour une partie des décideurs français. Il y a eu frustration que les États-Unis seuls deviennent le mal dominant alors que la France, une fois de plus, était jugée comme le peaser, c'est-à-dire celle qui a vocation à apaiser les tensions, et que l'un des objectifs de l'interventionnisme en Libye et au Mali était sans doute de contrer la perception possible de la faiblesse de la France. Pierre Grosser dit que le discours sur le manque de virilité est partout. La question de la virilité, Bertrand Badie, elle vous paraît importante dans la politique étrangère française?
Puissance, virilité, effectivement, avec un peu de psychanalyse, on comprend très bien le lien qu'il puisse avoir entre les deux. Mais je pense qu'il y a effectivement cette obsession de la puissance qui est d'autant plus aggravée dans le cas français que le partenaire allemand fait des performances, des prouesses en matière économique que nous ne suivons pas. Et plus le décalage économique entre l'Allemagne et la France se renforce, plus la France essaye de corriger en montrant ses muscles militaires et cette espèce de diplomatie claironnante. Il y a un excellent papier de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Westerwelle, qu'il avait écrit avec son collègue japonais, dans lequel il dit « Pour réussir dans la mondialisation, il faut avoir une politique modeste ». Or, la France a une diplomatie du mégaphone. C'est l'opposition modestie-mégaphonie. Je ne suis pas sûr que ça a été un moyen efficace non seulement de rattraper notre retard par rapport à l'Allemagne, mais de corriger ce déséquilibre franco-allemand. D'un certain point de vue, alors que l'Allemagne progresse comme puissance mondialisée, la France s'enfonce dans cette méthode couée de la diplomatie du mégaphone.
On vous retrouve, Bertrand Badie, avec Dominique Vidal, après le journal, à tout de suite.
Priorité santé. Géopolitique. Marie-France Chatin.
l'énergie.
Nos invités sont Bertrand Badie et Dominique Vidal, qui co-dirige l'État du Monde, dont la dernière édition vient de paraître sous le titre « La France, une puissance contrariée » aux éditions La Découverte. Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, et Dominique Vidal, journaliste et historien. On a terminé la première partie de l'émission, Dominique Vidal, avec le propos de Bertrand Badie, qui parlait d'une politique étrangère française du mégaphone, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de bruit sur ce que l'on fait et la manière dont on agit. Il y a aussi un terme qui a été utilisé dans l'État du Monde, c'est une militarisation de la politique étrangère française.
Écoutez, vous avez cité Pierre Grosser, c'était effectivement un papier tout à fait passionnant, il y en a beaucoup, 30 articles, 30 et un auteur, très exactement, en plus de Bertrand et de moi. Il y en a un qui est surprenant, parce que nous n'avons jamais, à ma connaissance, fait écrire d'hommes politiques dans l'État du Monde. Or, il y en a un, c'est Jean-Pierre Chevènement. Pour des raisons évidentes, c'est parce qu'il donne des clés, qu'on peut discuter certainement, sur ce qui s'est passé. Au fond, comment on est arrivé à Macron en partant de Gaulle. Et Chevènement dit quelque chose de profond, il dit qu'il pointe, je le cite, une dérive de la diplomatie française vers une forme d'occidentalisme. Alors il souligne d'abord, parce que c'est la vérité, l'importance qu'a eu la réintégration par Sarkozy de la France dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, qui évidemment était une rupture majeure avec la politique du général de Gaulle. Encore une fois, le général de Gaulle n'était pas un ennemi des États-Unis, c'est quelqu'un qui, dans les grandes crises, a toujours été du côté des États-Unis, mais il veillait à maintenir une marge de manœuvre suffisante pour que la France ait une politique indépendante. Jean-Pierre Chevènement ajoute qu'il y a un tournant qui a été pris au moment de la guerre du Golfe.
En 1991.
C'est-à-dire au moment où l'Union soviétique s'apprête à disparaître, quelques mois plus tard. On se souvient qu'en décembre, le 25 décembre, le drapeau rouge descend et Gorbatchev démissionne. Et Chevènement dit, à mon avis, à juste titre, que c'est le moment où les États-Unis repassent à l'offensive. Mais ils repassent à l'offensive pour bientôt se retirer. Donc c'est une période assez étrange de la réalité mondiale. Et donc, Chevènement, toujours lui, dit, je le cite, « Les relations que nous avons su tisser dans le passé, sous l'impulsion du général de Gaulle, avec les grands émergents, la Chine, la Russie, plus généralement, dit-il, les pays de l'ancien tiers-monde, se sont distendues. » Pour lui, il y a le danger d'une structure mondial en voie de formation, où la rivalité entre les États-Unis et la Chine se présente comme un appel, il dit comme une aspiration des alliés des États-Unis à se remettre sous le leadership indiscuté de Washington dans une nouvelle guerre froide de l'Occident face... Et à ce moment-là, la seule alternative possible qui reste, compte tenu de ce qu'est la puissance française, c'est l'Europe. Mais l'Europe n'existe pas en tant que puissance politique, a fortiori en matière de politique extérieure. Il y a donc quelque chose de grave, et au fond, c'est intéressant que ce soit Chevènement qui le dit, et je termine là-dessus, ce gaullo-mitterrandisme dont on disait, la formule est de Védrine, autant que je sache, dont on disait que Macron s'en réclamait, on peut chercher dans la politique extérieure de Macron où est-ce que ce gaullo-mitterrandisme se trouve, on aura bien du mal à le dénicher.
Alors justement, Emmanuel Macron a annoncé dès son élection et dans le cadre de sa campagne qu'il entendait avoir une politique disruptive, Bertrand Badie. Qu'est-ce que vous retenez de la façon dont l'actuel président français a géré sa diplomatie ?
Alors, effectivement, il y a un décalage entre le Emmanuel Macron de sa campagne présidentielle et le président de la République en fonction. Si on regarde ses discours durant la campagne présidentielle, il annonçait beaucoup de tournants. Il annonçait d'abord la fin du néoconservatisme à la française. Il annonçait, sinon la fin, du moins une atténuation des interventions à l'extérieur. Il annonçait un recentrage vers le multilatéralisme. Et dans la pratique, on a vu une parfaite continuité de cette politique de puissance 2. Comme Dominique l'a très bien montré il y a un instant, il y avait la puissance 1 autour de cette conception gaullienne ou gaulo-mitterrandienne, et puis la puissance 2 qui apparaît au milieu du mandat de Jacques Chirac autour de la reconstruction de l'idée d'Occident. L'idée d'Occident a connu sa quatrième réincarnation avec la deuxième présidence de Chirac ou aussitôt après la crise irakienne, et elle a dessiné les contours dangereux d'un nouveau campisme, c'est-à-dire la France milite pour la reconstruction de ce camp occidental. Le mot Occident, il avait disparu de la rhétorique politique jusqu'à la fin Chirac et le temps Sarkozy, et ensuite c'est revenu, et finalement Emmanuel Macron s'est installé dans cette continuité. Or, si on y réfléchit bien, qu'est-ce que c'est que l'Occident? Qu'est-ce que c'est que ces valeurs occidentales? Alors on nous explique, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, etc. Oui, mais pourquoi y a-t-il des dictateurs qui plaisent, style le maréchal Sissi, et d'autres qui déplaisent, je ne sais pas, Loukachenko? Pourquoi il y a des coups d'État qui plaisent, c'est-à-dire celui du Tchad remplaçant Déby par Déby, et d'autres qui déplaisent, comme celui qui a eu lieu en août de l'année dernière au Mali? Pourquoi y a-t-il des islamismes qui plaisent, comme par exemple en Arabie Saoudite, et d'autres qui déplaisent, comme ceux que l'on retrouve dans d'autres régions du monde et jusqu'en Iran? Tout ça montre que finalement, nous sommes dans un temps de reconstruction stratégique et politique de l'Occident. C'est-à-dire, c'est pas un ensemble de valeurs, c'est pas un espace de valeurs communes, ça n'existe pas d'ailleurs en sociologie, ce genre de choses. Les valeurs ne sont jamais communément partagées et interprétées de la même façon unanimement dans un pays. Non, c'est une communauté politique. Une communauté politique qui est un camp occidental, et alors que le candidat Macron nous annonçait multilatéralisme, nous annonçait fin du néoconservatisme, nous annonçait une diplomatie beaucoup plus ouverte vers la mondialisation, finalement, son quinquennat aura marqué le renforcement de cette stratégie de puissance, de cette stratégie campiste, de cette stratégie néo-occidentale et finalement de cet usage non critique de l'instrument militaire. C'est dommage parce qu'il a fait de très beaux discours. Il y a eu deux superbes discours d'Emmanuel Macron
à l'ONU,
aux Nations Unies, en septembre 2017 et en septembre 2018. Magnifique, hein. Mais les travaux pratiques n'ont pas suivi. Et c'est ça qui est étonnant. Et c'est dommage aussi parce que, comme le disait très bien Dominique tout à l'heure, la France, il faut le dire ça, a le meilleur corps diplomatique du monde. Vous savez que je ne suis pas du genre Chauvin à l'excès, mais la diplomatie française, c'est une formidable institution, avec des gens remarquables.
Mais qui sert de moins en moins à la lecture de l'état du monde, et on en a déjà parlé, avec finalement un Quai d'Orsay qui est assez marginalisé, à la faveur d'une cellule diplomatique à Élysée.
On marginalise la compétence et on absolutise la présidentialisation de ce régime. Finalement, la présidentialisation, c'est l'ennemi des politiques étrangères équilibrées. Là où il y a un excès de présidentialisation, il y a toujours un excès dans la politique étrangère. Regardez Poutine, regardez Erdogan, regardez les États-Unis, vous verrez la différence par rapport à des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, et même la Grande-Bretagne, d'un certain point de vue, où l'absence de présidentialisation rend la diplomatie moins mégaphonique, plus modeste et probablement plus emprise sur la mondialisation.
Il faut lire à ce sujet le papier qui est très, très intéressant, je trouve, d'Yves Aubin de la Messuzière, qui montre comment la cellule diplomatique prend le pas sur toute autre instance, ce qui n'a aucun sens. Imaginez que vous ayez, Marie-France, à expliquer ça à des confrères allemands. Ils n'y comprendront rien. Ça n'existe pas en Allemagne. Angela Merkel, pour le prononcer comme il faut, a une puissance réelle dans sa capacité à pousser la politique extérieure allemande, mais elle le fait dans le respect d'un débat démocratique où chaque parti, chaque expert, chaque ambassade contribue. On n'a pas du tout ça en France.
Et cette concentration des décisions prises au sein de la cellule diplomatique nous fait faire aussi des erreurs. Je pense au Venezuela, avec le soutien apporté à Juan Guaido contre le président vénézuélien. Sur le conflit israélo-palestinien, Dominique Vidal, vous parlez de paresse diplomatique et une trop grande sensibilité aux pressions des inconditionnels d'Israël. En tout cas, on est rentré dans les chaussures de Donald Trump.
Oui, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui a joué le plus, mais en tout cas, je suis convaincu, c'est le sens du papier que j'ai écrit, qu'il y a quelque chose qui est absolument central dans cette affaire. C'est-à-dire la question de Palestine, non seulement elle est centrale dans la réalité internationale, comme le printemps et l'été nous l'ont montré amplement, mais en plus, elle est centrale pour comprendre ce qui s'est passé avec la politique extérieure française. Parce que quand De Gaulle arrive, je ne veux pas entrer dans le détail de l'histoire, mais il a un héritage terrible. On a 10 ans derrière lui, en 58, d'alliance quasiment inconditionnelle avec Israël, au point qu'on fournit les éléments de la bombe A et H à Israël au moment de la guerre de Suez. Il essaye de rectifier tout cela. La guerre d'Algérie est terminée, donc on peut avoir une politique arabe digne de ce nom. Et ça s'applique immédiatement en 67. De Gaulle refuse la décision, compris les dirigeants israéliens, de déclencher une guerre préventive. Il y a l'embargo, et puis il y a l'affirmation du refus de l'occupation, de la colonisation, etc. Et on a des présidents qui, tant bien que mal, chacun à sa manière, poursuivent la politique de De Gaulle. C'est vrai de Pompidou, c'est vrai de Giscard, qui va même la pousser assez loin, puisque Giscard, c'est l'homme qui offre un bureau à l'OLP à Paris en 75. C'est l'homme qui contribue largement au sommet de Venise de 1980, où l'Union européenne affirme le droit des Palestiniens à une patrie et la nécessité de négocier avec l'OLP, 80. On a l'impression que c'est presque révolutionnaire par rapport à aujourd'hui. Et puis, on a Mitterrand, présumé ami d'Israël, qui l'est certainement, mais qui va être, d'une part, l'homme qui va à Jérusalem, à la Knesset, proclamer lui aussi le droit des Palestiniens à un État, et qui va sauver deux fois de suite Yasser Arafat au Liban en 82, en 83, qui va le recevoir à Paris en 89. Donc, au fond, quand Chirac arrive, il peut s'appuyer sur le socle que représente cette politique. Et il le fait. Il le fait de manière même spectaculaire avec la fameuse bagarre, ou quasi-bagarre de Jérusalem en 1996. « Do you want me to take my plane back to Paris ?» La France est devenue le héros du monde arabe à l'époque, pour plusieurs années. Cette scène a marqué. Quoi. Et après, comme le disait Bertrand, le refus de la guerre américaine contre l'Irak, avec le discours de Villepin, tout d'un coup, on a l'impression que Chirac faiblit et qu'il il recule. Il recule parce que les Américains ont fait du French bashing avec des conséquences économiques directes qui inquiètent le grand patronat français. Et il recule parce que Hariri est assassiné. Visiblement, le coup vient de Damas. Et Damas, c'est Bachar al-Assad, qui est le filleul de Chirac. Donc, ces deux événements font que Chirac passe en quelques mois des honneurs rendus comme un chef d'État à la dépouille de Yasser Arafat en 2004, fin 2004, au tapis rouge qu'on déroule pour son assassin, c'est-à-dire Ariel Sharon, qui arrive à Paris en juillet 2005. Donc on a quelque chose qui, à ce moment-là, se joue, et depuis, on va, excusez-moi l'expression, de caribe dans cille-là. C'est Nicolas Sarkozy, qui est à la fois atlantiste et sioniste. C'est ensuite François Hollande, qui, comme vous le savez, a toujours un champ d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Et puis Emmanuel Macron, qui, comme vous l'avez dit, je trouve la formule très jolie, s'est mis dans les chaussures de Trump. Officiellement, c'était parce qu'on ne voulait pas le heurter. Mais Trump est parti, Biden est arrivé, et Macron n'a pas changé. La France est absente d'un dossier qui a été un dossier central de la politique indépendante du général de Gaulle.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, deux questions. On a le sentiment, avec tout ce que vous venez de dire, que la boussole de notre politique étrangère, elle est devenue un petit peu folle. Et on a le sentiment, Bertrand Badie, que la France, aujourd'hui, est un pays finalement assez isolé. Vous avez parlé de cette rupture du contrat avec les Australiens sur les sous-marins. La France qui a toujours voulu se positionner, alors vous parliez de retour du campisme, mais on sent bien un pays qui finalement n'arrive pas à trouver sa place devant cette alliance anglo-saxonne dans le monde. Et une place difficile à trouver aussi au sein de l'Union européenne. On va rappeler que la France prend la présidence de l'Union européenne en janvier prochain, en pleine année électorale. La France aussi, elle est très isolée en Europe.
C'est le paradoxe du positionnement français. La France cherche à garder son rang et à optimiser sa puissance. Or, dans le monde aujourd'hui tel qu'il est, il n'y a rien de tel pour être isolé. Et on le voit même à l'échelle de l'hégémone américain, c'est-à-dire jouer de la puissance militaire et s'imposer au premier rang, ça vous coûte des caboules 15 août 2021. Donc la France est en plein paradoxe et on peut faire l'inventaire de ces résultats paradoxaux. Il y a d'abord l'Europe, effectivement. Lorsque le général de Gaulle a soutenu la première construction européenne, ce qui était à l'époque l'Europe à 6, c'était avec l'idée que la France en serait naturellement le leader. C'est-à-dire, je reprends sa formule, l'Europe devait être le levier de la France, disait le général de Gaulle. Et effectivement, dans l'Europe à 6, l'Allemagne, à cette époque-là, ne pouvait prétendre à aucun leadership diplomatique, pas plus que l'Italie et pour des raisons comparables, et le Benelux était trop faible. Donc ça a été une chance pour la France. Et la France a réussi à garder le leadership européen jusque justement vers 2003. 2004, c'est l'élargissement. C'est l'arrivée de tous ces pays d'Europe centrale et orientale, sur lesquels la France a peu d'influence, et surtout dont l'orientation est très atlantiste, très pro-américaine. Et si en Europe, il fallait choisir, on choisirait plutôt l'Allemagne que la France. Donc ça a été un échec. Deuxième échec, c'est le précaré. C'est-à-dire, dès la décolonisation, comme disait Dominique tout à l'heure, qui a échoué parce qu'elle a été mal pensée, finalement, la décolonisation, dans l'esprit de ceux qui l'ont mené, devait conduire à une reconversion des colonies en précaré de la France. Or, on a vu que ce précaré s'est traduit par quoi ? Aujourd'hui, on en est à 53 interventions militaires françaises en Afrique depuis la décolonisation. Et donc, ça a créé un sentiment de défiance ou, en tous les cas, de connivence incertaine avec les régimes très faibles et très peu institutionnalisés en place. Troisième élément, c'est l'absence complète de la France auprès des émergents et des nouvelles puissances. Alors, vous mettez tout ça bout à bout et vous créez les conditions d'un isolement. L'élément le plus spectaculaire de cet isolement, c'est quand, pour corriger l'un, la France appelle l'autre. Pour corriger les échecs dans le précaré, elle fait appel à l'Europe. C'est la fameuse opération Takuba au Sahel. Et les Européens ne répondent pas présents.
Une image de la France qui s'est beaucoup dégradée, notamment en Afrique francophone, depuis les débuts des années 2010. En guise de conclusion, Dominique Vidal.
Ben, je crois qu'il faut reparler de l'Europe, quoi. On est vraiment au cœur d'une alternative possible dans laquelle la France peut reconstruire une politique extérieure ouverte, une politique qui ait du sens. Le problème, c'est que là aussi, il y a l'objectif et le subjectif. Bien sûr qu'objectivement, la France n'a pas de rapport de force aussi favorable en Europe qu'elle en avait du temps du général de Gaulle, évidemment, comme Bertrand l'a montré. Mais il y a aussi l'absence de volonté. Quand je pense qu'Emmanuel Macron se présentait longtemps comme le champion de la lutte contre l'illibéralisme en Europe, parce qu'il y a une fraction illibérale, c'est vérité. Vérité Orban, vérité Kaczynski, vérité les Pays-Baltes, on a quand même un groupe qui est un groupe pour le moins autoritaire, pour ne pas dire plus. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On s'aligne sur Israël comme eux. On mène une politique sécuritaire, pour ne pas dire autoritaire, avec Gérald Darmanin, comme eux. C'est-à-dire, on est les champions de l'illibéralisme et on imite les illibéraux en France. Vous voyez bien que là, avec ça, l'avenir de la politique européenne de la France est quand même très compromis.
En tout cas, il y aurait eu encore peut-être beaucoup à dire, mais c'est la fin de Géopolitique. Merci à chacun. Bertrand Badi, professeur à Sciences Po, Dominique Vidal, journaliste et historien. Vous êtes tous les deux les co-directeurs de La France, une puissance contrariée. L'état du monde 2022, paru aux éditions La Découverte. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.